Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie. Pour un nouveau point de mire, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir le président de la CEGOS, qui est accompagné de sa directrice de la communication, Madame Alexandra Cavana. Monsieur le Président, Madame, bonjour.
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 Merci d'avoir accepté aussi facilement de vous rendre à notre invitation. Je sais que vous êtes extrêmement occupé, mais c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir sur notre antenne. La CEGOS est devenue au fil des années un des grands leaders européens de la formation. C'est un leader national, mais c'est aussi un grand leader européen. La CEGOS, pour les professionnels, je peux en témoigner, c'est à la fois une institution originale par son histoire, mais aussi par sa culture. Et certainement aussi par son modèle. Certainement, c'est ce que nous allons voir dans notre discussion de tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter et présenter aussi un petit peu la CEGOS. La CEGOS qui est riche de 80 années d'histoire, je ne me trompe pas. Le groupe CEGOS est d'abord une aventure humaine, ses pionniers en tête desquels Octave Gélinier, grand inspirateur de l'école des ressources humaines en France, ont toujours placé l'homme au centre de leurs activités et de leurs actions, dans la pédagogie comme dans leurs pratiques de gouvernance, très originale puisque le capital de l'entreprise, et là vous m'arrêtez si je me trompe, est détenu en majorité par les salariés du groupe.
Tout à fait.
Les salariés et les cadres, j'imagine,
tout à fait, tout
par le management.
Hein, voilà.
D'accord. Alors, quant à vous, Président, quelques mots de présentation. Vous êtes ingénieur de l'Institut, vous êtes donc un agro.
Oui, tout à fait.
C'est comme on dit.
Exactement.
Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a pris de quitter l'agriculture? Enfin bon. Vous êtes donc président de la directoire de la CEGOS depuis 1998. Vous êtes rentré en tant que directeur à la division marketing. Et vous avez été auparavant, dans une vie précédente, chef de département dans la grande distribution, chez Auchan en particulier, après avoir été directeur général et administrateur de L'Oréal, c'est ça?
Tout à fait,
c'est
oui.
Ça.
D'une des filiales.
D'accord, donc un parcours très multiple et
oui.
Diversifié. Vous peut-être d'ailleurs voulez rajouter quelque chose sur cette présentation.
Écoutez,
vous êtes marié, je suppose.
Je suis marié, j'ai deux enfants. C'est un parcours qui est effectivement un parcours un petit peu atypique, hein, qui est lié à la fois, on va dire, au hasard et puis aussi avec un peu de déterminisme. Donc le hasard, c'est d'avoir rencontré des personnes qui m'ont séduit, qui ont bien voulu m'embaucher, avec lesquelles j'ai eu plaisir à travailler. Le déterminisme, j'ai toujours cherché vraiment des aventures, finalement, à découvrir des activités qui étaient des activités en développement, des activités sur lesquelles il y avait possibilité, on va dire d'une façon très significative, de marquer des percées ou des avancées. Hein. Donc ça a été un peu mon drive.
D'accord.
Au cours de ma carrière professionnelle.
Donc, alors vous êtes à la CEGOS, on vient de le dire, depuis 1998, donc ça fait 10 années.
Hein, 90.
90,
oui, 90,
90, 90. Oui. Et vous avez succédé, qui était président avant?
C'était Yves Canac.
Ah oui, d'accord.
Oui, Yves Canac était quelqu'un qui avait été président du groupe Havas, qui au préalable, en fait, avait eu une carrière dans la grande administration, hein, puisqu'il était secrétaire de l'Élysée à l'époque de Giscard
d'Estaing. Ah oui, c'est ça.
Et après donc, l'épisode d'Havas, il est rentré à la CEGOS où il a été président pendant à peu près une dizaine d'années.
Bien, écoutez, je crois qu'on a dit l'essentiel. Enfin, madame, je dis un mot quand même de présentation. Vous êtes donc directrice de la communication et vous êtes diplômée du CELSA, entre autres. Et vous avez une longue expérience déjà dans différentes grandes entreprises. Vous êtes mariée et maman de deux enfants et vous êtes franco-italienne, ce qui certainement
Absolument.
Est en phase parfaite avec la politique internationale du groupe CEGOS. Alors donc, première question, la CEGOS, aujourd'hui,
oui.
Quelle est sa mission? Quelle est sa volonté, ses objectifs, et en partant peut-être un peu de son histoire.
Oui. Bah écoutez, on peut peut-être démarrer par l'histoire, parce que
Absolument.
C'est une histoire originale. La CEGOS, au tout début, en fait, c'était simplement à la rencontre de quelques patrons d'entreprise qui avaient l'habitude de se voir une fois par mois pour échanger sur leurs problèmes. Bon. Et puis ces personnes ont trouvé que ce type d'échange avait des intérêts et ont créé finalement entre elles des voyages d'études. Hein. C'était à l'époque où on va dire, au niveau de pays comme les États-Unis, le Japon, il se passait pas mal de choses. Et donc, pour eux, c'était vraiment important d'aller un peu en veille sur ce type de pays. Bon. Et puis, petit à petit, en fait, ce groupe s'est étoffé, s'est élargi et a voulu se structurer. Et donc, a été créée une association. Loi de 1901, l'association Ségos, qui donc organisait des voyages d'études, des conférences, des échanges avec des experts.
Donc à l'origine, c'était plutôt un club, donc.
Exactement. Et puis, il y a à peu près une trentaine d'années, les dirigeants de l'époque ont vu qu'il y avait aussi une opportunité de développer une activité à valence plus commerciale pour d'autres entreprises. Et donc, a été créée juste à côté la société Ségos SA. Et au bout d'un moment, pour simplifier un petit peu les choses, l'association Ségos a décidé de se dessaisir complètement de son activité opérationnelle et a transféré tous ses actifs, y compris sa marque, à la société qui est la société Ségos actuelle.
Ah, vous faites bien de le dire parce que Ségos est effectivement une marque. Ce n'est pas exactement comme une marque générique comme Frigidaire, mais je pense quand même que dans le milieu de la formation, Ségos apparaît comme une marque. Capitalisez sur cette communication, madame, peut-être, non ?
Disons que c'est une marque de référence, c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
C'est certainement en France, en Europe aussi maintenant. Et puis bon, on espère bien que ça va, s'élargir au monde. Mais c'est vrai que Ségos, dans de nombreux pays européens, est la marque de référence en matière de formation pour les entreprises.
Très important. Donc, excusez-moi,
on
essaye de rebondir un peu.
Oui. Voilà. Alors, c'est sûr, en termes de mission, la Ségos effectivement, a toujours considéré qu'elle avait une mission. Et ce sont effectivement, comme vous l'aviez cité tout à l'heure, des gens comme Octave Gélinier qui ont été les pionniers pour lancer ce positionnement. Donc, la mission, c'était deux choses. D'une part, toute entreprise est d'abord une aventure humaine. Donc, l'homme est véritablement au centre de la vie d'une entreprise. Et d'autre part, notre métier, ou la valeur ajoutée que peut apporter à Ségos, c'est d'aider les gens, les équipes, les entreprises à grandir en développant leurs compétences. Au tout début, l'activité a été plutôt une activité de conseil, parce que la formation était encore relativement peu développée à ces époques-là. Et puis, il y a 35 ans environ, la formation est venue renforcer les activités de conseil. Et aujourd'hui, on a donc ce double savoir-faire, cette double compétence, à la fois de formateur, mais aussi de consultant, ce qui fait aussi un élément de singularité par rapport à nos concurrents, pour
D'accord.
être clair.
Mais lorsque vous dites que vous êtes sur le créneau de la formation,
oui.
C'est la formation professionnelle ou c'est la formation initiale ?
Alors,
les deux.
Non, on est uniquement sur la formation continue, à la formation professionnelle. Donc, nos clients, ce sont les entreprises et les personnes que nous formons, ce sont les salariés des entreprises. Donc, on est vraiment très, très peu sur des logiques de formation initiale.
D'accord.
Par contre, on peut être amené, dans un ensemble de cas très concrets, à avoir des prestations de formation avec des partenaires, soit de type grandes écoles, soit de type université. Deux exemples, dans le domaine des grandes écoles, c'est des écoles du type Centrale, Supélec, les Mines. Université, c'est par exemple le Paris Dauphine. Et donc là, c'est des prestations, alors qui sont destinées là aussi plutôt à des personnes qui sont en activité opérationnelle, mais dans lesquelles, en fait, on mélange un double savoir-faire, celui du monde universitaire et puis celui d'Ségos, ce qui permet à la fois d'être très, très opérationnel, mais aussi d'avoir des apports très académiques, très, très de fond.
Et ce type d'opération se passe avec, en alternance ou pas ? Enfin, c'est croisé avec... Donc, une partie dans les entreprises ou
oui,
c'est tout. Simplement donc, directement
Non, il y a des ponts. Disons que ça se passe en trois lieux. D'une part dans l'entreprise, d'autre part à la Ségos, et puis aussi dans les grandes écoles ou dans l'université.
D'accord, c'est ça. Donc, c'est un trium.
Voilà, c'est une vraie logique de production collective
d'accord.
avec l'entreprise au centre.
Voilà pour donc, votre approche. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? Il faut bien en donner quelques-uns même.
Oui. Alors,
je ne sais pas quels sont vos chiffres de référence. Il y a peut-être le chiffre d'affaires ou le nombre d'heures de quelque chose.
Oui, écoutez, cette année, en termes de chiffre d'affaires, on devrait dépasser les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ah oui, donc on situe immédiatement quand même la taille de l'entreprise.
Voilà, et ça nous positionne, on va dire, en termes de part de marché, donc effectivement comme le leader incontesté en Europe. Et sur le plan mondial, on doit être aujourd'hui le troisième ou quatrième opérateur. Donc vraiment, on est une dimension, une surface
Parce que en Europe, le marché, c'est très concentré ou c'est éclaté ? Non, c'est assez éclaté.
Alors, les marchés sont d'abord différents en volume d'un pays à l'autre. En Europe, les plus gros marchés, ce sont les marchés anglais, allemands, français. Puis ensuite, on voit d'autres marchés type Italie, Portugal ou des pays émergents. Bon. Deuxièmement, sur ces marchés-là, la structure, on va dire, des opérateurs sur le marché de la formation est une structure qui est aujourd'hui très peu concentrée. Donc il y a énormément d'organismes, mais qui sont vraiment très éparpillés, de quelques personnes simplement.
Mmh.
Alors que nous, on a une force, on va dire, de production en termes de consulting de pratiquement 1000 consultants. qui sont aujourd'hui répartis dans 12 pays. Hein, donc on est, et qui dépassent d'ailleurs l'Europe, hein, puisqu'on est en Chine, à Shanghai, à Pékin, avec des équipes de consultants Segos salariés à plein temps.
En Chine, il y a l'ESSEC qui est, non ?
Oui, il y a des écoles qui commencent.
Il y a des écoles françaises qui commencent à être.
Tout à fait.
En Indonésie aussi, je crois. Enfin bon. Une position sur votre marché européen de leader et sur le marché mondial, donc aussi extrêmement important. Voilà. Et le grand compétiteur, c'est qui ?
Bah écoutez,
il ne faut jamais parler des concurrents. Pour une fois, on fait une exception.
Donc, les compétiteurs sont des entreprises américaines.
Essentiellement, c'est des entreprises américaines. Ouais. D'accord. Voilà donc pour quelques chiffres. Alors, revenons maintenant peut-être un peu plus en détail sur votre activité, donc sur les différentes compartiments de votre activité. Alors, le conseil, donnez-nous quelques exemples peut-être des actions de conseil que vous conduisez et puis par ailleurs dans des actions de formation professionnelle.
D'accord.
Quelques illustrations.
Ce qui fait nous notre singularité, mais je crois que c'est ce qu'attendent de nos clients, c'est qu'en fait les deux métiers sont vraiment très entremêlés. On va voir une entreprise pour lui donner les meilleures pratiques dans un domaine donné. Mais ce qui est important pour l'entreprise et ses salariés, ce n'est pas simplement de connaître théoriquement ces bonnes pratiques, c'est d'être capable de se les approprier. Donc souvent, on peut démarrer par des opérations de conseil opérationnel et ensuite, on accompagne cela par des logiques de formation. Et puis inversement, parfois des clients nous consultent en nous demandant une opération de formation et on s'aperçoit en fait que la problématique est très en amont de la formation. Et là, le conseil prend tout son sens. Mais si vous voulez, en termes de volume, l'essentiel de notre activité est quand même en termes de chiffre d'affaires est réalisé sur la partie formation parce que c'est le marché sur lequel nous sommes le plus important, le plus légitime, le plus reconnu.
Et alors comment ça se passe ? C'est surtout par des formations in situ, etc. Ou est-ce que ça se passe par l'intermédiaire des moyens de communication modernes, le e-learning ou
C'est en fait on a trois canaux.
Voilà. Bon. Alors, revenons au canal alors.
Voilà le canal historique qui est le canal présentiel.
Voilà. Voilà.
Hein, donc là, c'est, on va dire, du face-à-face entre un consultant et puis une équipe à former, souvent d'ailleurs dans l'entreprise elle-même. Deuxième logique, c'est de la formation complètement à distance. Hein, et c'est vrai que le e-learning monte en puissance d'une façon très très forte aujourd'hui dans nos domaines de formation. Et le troisième canal, c'est un canal un peu plus original parce que c'est celui qui va aller chercher le meilleur du présentiel, le meilleur du e-learning et qui va mélanger les deux. D'accord. Dans notre jargon, on appelle ça du blended, c'est comme le whisky. Donc on associe deux bons composants pour faire...
une troisième force.
Voilà, une troisième force à plus forte valeur ajoutée finalement, et à meilleur goût si j'ose dire.
D'accord. Et alors, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais il faut peut-être y revenir de façon à ce que nos auditeurs l'intègrent un peu plus. Donc vos points de différenciation, comme on dit dans le langage de marketing, si vous en aviez trois à retenir, c'est quoi par rapport au marché, vos points extrêmement forts, enfin vous l'avez un peu dit, mais en synthèse, c'est quoi ?
D'accord. Donc trois points essentiels. Donc le premier point, c'est vraiment l'expertise technique. Donc nos clients attendent vraiment les meilleurs praticiens dans un domaine donné, la finance, le marketing, les achats. Et donc ça, c'est essentiel. Et donc on a sans cesse un travail important, vraiment pour toujours avoir une longueur d'avance par rapport à nos concurrents sur ce domaine-là. Notre deuxième savoir-faire, c'est la pédagogie. Donc aider, c'est pas forcément facile, apprendre difficile, en particulier pour les adultes. Et donc là, on a un travail très très lourd, qu'on réactive régulièrement pour avoir les meilleurs savoir-faire pédagogiques. Et la troisième caractéristique, ou avantage différenciateur, c'est lié à notre capacité à nous déployer dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des équipes qui travaillent en Australie, j'en ai d'autres qui sont en Indonésie, j'en ai qui peuvent être en Afrique du Sud. Même si on n'est pas implanté physiquement dans ces pays, parce qu'on n'a pas forcément des filiales partout, on a vraiment des équipes projetables dans le monde entier. Et donc ça, c'est un vrai service pour nos clients.
D'accord. Quelle est l'image donc à l'étranger, on va dire, surtout dans les pays anglo-saxons, de la formation à la française ?
Bah écoutez,
c'est plutôt un plus ou plutôt un moins, globalement.
Disons que, alors c'est la réponse c'est un peu compliquée.
C'est la question à 100 francs, voilà. Je te reconnais. Donc on va vous laisser le temps de développer.
Non, je ne sais pas. Donc peut-être un premier point, c'est le résultat d'une histoire, d'une culture et puis d'un processus de formation initiale. Les processus d'apprentissage ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Un Allemand n'apprend pas comme un Italien, un Suisse n'apprend pas comme un Chinois, etc., etc. Donc on a vraiment la nécessité en fait, de s'adapter aux caractéristiques locales en termes de pédagogie. Si on avait à donner quand même un élément fédérateur qui fait que il y a une touche française dans le domaine de la pédagogie. Oui. Vous avez vu dans mon CV que j'ai travaillé chez L'Oréal.
Oui, absolument.
Et L'Oréal, c'est une entreprise qui a toujours eu une touche de raffinement. Ce n'est pas des processus industriels, ce n'est pas des processus mécaniques. Ce sont des logiques dans lesquelles on associe deux choses. Un système, hein, parce qu'il faut être rigoureux, mais aussi des talents.
D'accord.
Et là, c'est vraiment tout à valeur ajoutée de nos consultants.
D'accord.
Et le consultant, nos consultants, les consultants Segos, ils ont un véritable savoir-faire. Et souvent, on s'en aperçoit, quand on forme des consultants provenant d'autres pays, parce que pratiquement dans tous les pays, les gens qui sont sur place sont des natifs de ces pays. Et pour eux, c'est une vraie valeur ajoutée de découvrir cette touche, un petit peu, cette potion magique qui est liée à la pédagogie à la française et plus particulièrement à celle de la Segos.
Donc vous, vous envoyez sur le terrain international vos propres équipes.
Oui.
Il y a un mouvement qui me paraît extrêmement intéressant, enfin du moins une opération que je connais qui se fait en sens inverse, où on fait venir, notamment à Paris 2, des futurs DRH qui prendront leurs fonctions dans des groupes internationaux.
Oui.
Et je trouve que c'est une approche assez intelligente, puisqu'on ne contourne pas la réalité. La réalité, c'est que la plupart de ce type de formation, notamment en matière de management et de DRH, se fait en anglais.
Oui.
Mais par contre, on les fait s'investir dans la culture et dans le jus, si je puis dire, français, pour ensuite les reprojeter dans les entreprises internationales qui, elles, ne sont pas d'identité nationale. Donc c'est aussi une autre approche qui me paraît très intéressante, parce que nier que la langue anglaise est quasi incontournable, ça paraît difficile. Mmh. Et en sens inverse, ne pas se battre pour défendre, on va dire, la spécificité française et la culture française, ça serait une erreur. Et donc je pense que cette... Pour ça, je vous pose la question. Alors, je ne sais pas si c'est une piste qui va vous y faire réfléchir. Madame, allez-y.
Vous parlez de spécificité, c'est vrai pour la spécificité française, c'est vrai pour les autres aussi.
Oui.
Et en fait, pour rebondir sur ce que disait Jacques tout à l'heure, moi je suis à Segos depuis bientôt 2 ans. Donc c'est tout récent.
Ouais.
Et c'est un métier que j'ai découvert.
D'accord.
Parce que
je
n'étais pas du tout dans ce domaine avant. Ce qui me frappe, c'est la difficulté à la fois à pouvoir se déployer efficacement partout, accompagner des entreprises qui aujourd'hui ont des besoins à l'international, c'est une évidence, et en même temps à devoir toujours s'adapter localement. Alors, dans notre jargon, on appelle ça l'approche multilocale, c'est pas très beau.
Mais en matière
de pédagogie et de formation, c'est très complexe. Parce que, bon, alors vous parliez des forces Segos, moi je veux dire, je suis peut-être pas très objective, mais ça me paraît être un point essentiel dans l'approche, dans la manière de faire les choses.
C'est vrai, c'est que par rapport à ce que vous avez dit aussi, c'est cette notion de club qui rassemble des professionnels de différents métiers, provenant de plusieurs types de pays et qui ont intérêt et puis envie à échanger, sont des choses qu'on développe. Soit sur des métiers, donc dans le domaine des DRH, dans le domaine des achats, dans le domaine des directions commerciales, soit dans le domaine de certains secteurs. On a un club, par exemple, des DRH ou des responsables formation dans le domaine de l'automobile.
D'accord.
Donc là, on a régulièrement, à Paris, c'est en français, des gens qui viennent d'Allemagne, des gens qui viennent d'Italie, d'Espagne, de France. Oui, donc on est vraiment aussi dans cette logique-là.
Mais écoutez, Président, on va revenir dans quelques instants, après avoir marqué une pause, sur ce grand leader européen qui est la Segos. Donc nous marquons une pause de quelques instants. Merci.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé, puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Academy, une émission libre écoute et libre téléchargement.
Chers amis, nous allons reprendre notre point de mire avec donc mes deux invités, le président Jacques Coquerel et Madame Alexandra Cavana de la Segos. Et pour revenir sur donc un point que j'ai effleuré dans mon introduction, qui est l'originalité de votre répartition de capital, puisqu'il est détenu en majorité par le personnel. Et donc, vous avez un type de gouvernance qui est assez particulier. Quel est-il ? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement et peut-être pour l'avenir ?
D'accord. Et si vous voulez, je crois que l'origine de tout ça remonte encore dans l'histoire de la Segos. La Segos a vraiment été une des entreprises pionnières au moment où se créait la participation ou l'intéressement. Donc il y a toujours eu dans la culture de l'entreprise la volonté d'intéresser l'ensemble des salariés finalement aux bénéfices, aux résultats, à la valeur ajoutée créée par l'entreprise. Et on a eu une opportunité, effectivement, il y a 3 ans, hein, de dessiner un modèle original d'actionnariat sous forme d'un LMBO, avec pour objectif vraiment d'amener la majorité des salariés, quels que soient les pays, à rentrer dans ce dispositif, de façon à ce que finalement le travail et l'énergie hein, qu'ils dépensent se traduisent par des résultats dont ils puissent bénéficier au-delà de leur simple rémunération de salariés.
Mais ça veut dire que ce n'est pas détenu simplement que par les cadres alors, ou c'est détenu...
Non, c'est détenu par l'ensemble du personnel, cadres et salariés. Pratiquement, si on prend la France, tous les salariés sont actionnaires, tous. Bon. Si on prend les autres pays, c'est très variable. Il y a des pays, bon, c'est lié aux histoires là aussi, une majorité d'Espagnols, d'Italiens, de Portugais, d'Anglais, d'Allemands sont actionnaires. Les Chinois, hein, nos consultants chinois sont des actionnaires, donc des fervents, comment dire, supports du capitalisme.
Oui, bien sûr, mais ils s'ouvrent de plus en plus au capitalisme, à juste titre.
Bon. Voilà. Et bon, et puis après, il y a d'autres pays où... Ce qui est limité dans certains pays, c'est la notion de pouvoir d'achat. Enfin, parce que bon, le revenu d'un Polonais, c'est pas tout à fait le revenu d'un salarié français. Donc là, vraiment, c'est structurant.
Donc un affectio societatis, comme on dit, extrêmement fort.
Voilà. Et on a souhaité quand même que la Ségos ne soit pas qu'une grande coopérative, hein, parce que ça pourrait être le risque.
Il y en a des bonnes, hein, quand même.
Il y en a des bonnes. Et on a quand même structuré, on va dire, par des dispositifs de gouvernance, hein, un système dans lequel le management, quand même, l'ensemble des managers ont une responsabilité de opérationnelle sur les décisions stratégiques et politiques.
Et alors, une question brutale, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, mais en tout cas, je la pose. Que représente la part, par rapport à un salaire moyen, on va dire, la part de dividendes? C'est une part significative ou ça reste marginal? Je ne me rends pas très bien compte.
La réponse est un petit peu difficile, parce que dans la logique du LMBO, en fait, le LMBO est conclu pour une période donnée.
C'est ça, d'accord.
Et le débouclage ne se fait qu'à la fin de cette période.
D'accord.
Donc on est dans un système où finalement...
C'est pas encore débouclé.
C'est ça, non.
D'accord. Oui, donc là, on ne peut pas répondre.
En fait, voilà, ça s'accumule progressivement la valeur ajoutée, mais pour l'instant...
Tout à fait. Donc ça, vous êtes en train de constituer véritablement le capital nouveau.
Voilà, exactement.
Je vois bien l'empreinte ou la philosophie du grand ancien Octave Gélinier qui plaçait l'homme... La participation, l'intéressement, comme d'ailleurs le général, au centre du management. Et vous, ça, dans votre exercice donc de patron, vous en tirez des enseignements très positifs ou y a-t-il des points négatifs aussi?
Écoutez, pour l'instant, les points négatifs, on n'en a pas vu.
Bon, d'accord. Donc il faudrait généraliser. Il faut absolument qu'on
donne... Sans doute. Je pense que c'est... Vraiment, c'est... Bon, il faut attendre la fin de l'histoire, hein, mais vraiment, c'est une histoire très intéressante. Alors concrètement, par quoi ça se traduit hein, Bon, en dehors du fait que les salariés donc, bénéficient de la valeur ajoutée créée. Depuis qu'on a mis en place ce dispositif, notre turnover s'est réduit de façon considérable. Donc ça a créé un attachement.
Fidélité.
Une fidélité forte à l'entreprise dans un métier, on y reviendra peut-être tout à l'heure, hein, dans lequel il peut y avoir naturellement un certain...
Un turnover.
Qui est fort, Donc ça, c'est vraiment un élément important. Deuxième point important, c'est aussi important dans le fonctionnement d'une entreprise, c'est une capacité à aligner très vite toutes les équipes vers le même objectif. Donc finalement, chacun prend conscience que le cap a besoin d'être défini.
Une adhésion qui est beaucoup plus facile.
Voilà, une adhésion beaucoup plus facile. Et puis, troisième point qui est important, je crois qu'en termes d'image aussi auprès de nos clients, bon, c'est un élément un peu rassurant. Ça montre que c'est une entreprise qui est faite d'hommes. Chaque homme se consacre finalement à créer de la valeur ajoutée. Comme chacun sait que cette valeur ajoutée se crée par ses clients, forcément, le client en retrouve aussi une contrepartie.
Mais alors, justement, puisqu'on parle des hommes, et quand je dis les hommes, comme disait l'autre, j'embrasse la femme aussi, donc c'est les hommes et les femmes. Quelle est leur typologie à ces collaborateurs?
Alors, on a une caractéristique qui peut surprendre. À la Ségos, entreprise de formation, on n'embauche jamais de formateurs. Ce qu'on recherche, ce sont en fait des opérationnels, hein, donc des gens qui ont eu une expérience de plusieurs années dans des entreprises industrielles, de services. Bon.
Ça, c'est un point fort aussi.
Tout à fait. Ah, donc, ce sont des gens qui connaissent vraiment parfaitement le milieu d'entreprise, le monde d'entreprise, les problématiques de l'entreprise. Et nous, on a le savoir-faire pour leur apprendre le métier de formateur. Donc, vraiment, ce sont des gens qui ont généralement 8 ans d'expérience, à peu près, qui ont une formation supérieure importante et qui ont, la plupart du temps, fait 2 entreprises, voire 3 entreprises avant de venir nous rejoindre. Alors, Souvent, moi, je les questionne en leur disant, mais finalement, pourquoi vous avez décidé de changer? En fait, souvent, ce qu'ils me répondent, c'est qu'une entreprise, on va dire, du type de la Cegos, et le métier surtout que fait la Cegos, c'est pour une sorte d'accélérateur de carrière. Hein, parce que ça leur permet d'être au contact de tas d'entreprises de nature tout à fait différente, donc d'enrichir à la fois leurs compétences, leur surface. Hein, et quand on a du turnover, pratiquement dans 90% des cas, ce sont nos clients qui, à la fin, nous débauchent nos consultants.
c'est la loi du sport, là.
Exactement. Alors, c'est à la fois triste, puis c'est à la fois aussi un élément de satisfaction, parce que ça veut dire que les gens étaient adaptés à ce qui était attendu.
Donc, les gens viennent un petit peu dans une logique de MBA professionnel, en quelque sorte. Ils font un MBA à la Cegos tout en étant payés, ce qui est quand même quelque chose de parfait, ça.
Voilà, c'est de la formation continue permanente.
Autre question, vous le disiez tout à l'heure, donc vous avez une implantation maintenant partout dans le monde. Et donc, vous devez avoir un regard à la fois, bien sûr, sur ces pays, mais plus particulièrement sur la façon dont votre métier, ce métier, est donc exercé. Mm-hmm. Et quelles sont les particularités que vous notez à travers le monde, et notamment à travers les principaux pays émergents, la Chine notamment? Mm-hmm.
Ouais. Il y a deux phénomènes qui ne sont pas tout à fait parallèles sur les pays européens. Là, le moteur, finalement, c'est l'entreprise. Donc l'entreprise, vraiment, aujourd'hui, est convaincue qu'une des batailles importantes, c'est la bataille des compétences, bon, et qu'il est nécessaire donc de former ses salariés. Il y a 20 ans, peut-être, la formation était perçue comme un coût. Aujourd'hui, c'est vraiment perçu comme un investissement. Et donc là, au niveau des entreprises, l'objectif est d'essayer de former, bien sûr, les gens, et puis d'attirer les talents en proposant le développement de compétences. Bon, si on va sur d'autres pays, je veux prendre l'exemple de la Chine, mais ça pourrait être le cas de la Pologne ou du Maroc. Hein. Là, le moteur de la demande, ce sont les salariés. Parce que ces salariés, on voit se dessiner une sorte de soif d'apprendre, bon, qui est liée à une soif de réussir. Et derrière cette soif de réussir, il y a forcément des attentes très très fortes en termes de revenus. Donc dans ces pays, il y a vraiment... moi, ça me fait parfois peur, hein, parce que je me dis... Ils en veulent. Et non seulement ils en veulent, mais ils sont dans l'action pour y aller. Hein. Et donc là, il y a vraiment un moteur lié à l'individu qui est en fort développement. Ce qui est bien, c'est qu'en France, hein, sous l'impulsion des pouvoirs publics, a été créé ce qu'on appelle le droit individuel à la formation, qui aujourd'hui permet à chaque salarié français, hein, quel que soit son statut, de pouvoir légitimement maintenant demander et activer ce moteur personnel. Donc ça devrait permettre de rattraper un décalage qui pourrait être éventuellement un peu dangereux.
Tout à fait. Mais justement, vous disiez tout à l'heure que si on revient au niveau de la conjoncture, probablement que la formation est un indicateur avancé de la vitesse de l'économie. Alors est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez plutôt tendance à considérer que les choses se dessinent plutôt bien ou inversement ? Selon vos considérations internes, donc.
Oui, alors si vous voulez, bon, les premières caractéristiques, dans les entreprises, la formation est parfois encore une variable d'ajustement des coûts.
Oui, bon. Je partage. Ouais.
Voilà, donc quand à un moment donné, les choses sont un petit peu tendues, les marchés sont plus durs, un peu comme la publicité d'ailleurs, hein, l'entreprise régule sans arrêter, hein, ses dépenses de formation. Bon. D'une façon un petit peu caricaturale, pour connaître mon chiffre d'affaires, je regarde les PIB des pays. Oui. Donc aujourd'hui, forcément, c'est une vision qui n'est pas forcément très enthousiasmante.
Oui, bon. Et qui fait un peu peur.
Qui fait un peu peur. Et d'un autre côté, même dans des pays qui sont des pays vraiment très touchés, hein, je pense à l'Espagne actuellement, je pense à l'Angleterre, on a des résistances qu'on ne voyait pas dans le passé. Hein. Donc je crois que ça montre la maturité des entreprises qui se disent, mais finalement, dans ces périodes difficiles, il faut que mes commerciaux savent mieux vendre, il faut que mes acheteurs savent mieux acheter, il faut que mes usines produisent plus efficacement. Donc, cette variable d'ajustement, en tout cas, c'est ce qu'on voit pour l'instant dans nos chiffres, hein, touchons du bois pour voir si ça se confirme, cette variable d'ajustement s'atténue très fortement.
C'est une très bonne chose. Alors, et par contre, ça me fait penser, puisque vous parlez de chiffre d'affaires, la répartition de votre chiffre d'affaires, on va dire, entre le chiffre d'affaires national, en grande masse, bien entendu, en proportion, c'est quoi? C'est 50% national, 50% international?
Non, aujourd'hui, c'est deux tiers encore en France.
Mais c'est ça. Hein,
et un tiers à l'international. Et notre objectif dans les 3 ans qui viennent, hein, c'est d'avoir une répartition, comme vous l'évoquez, 50-50.
C'est ça, ce qui serait déjà un équilibre extrêmement intéressant. Alors, on arrive quasiment au bout de notre entretien. Une question donc sur l'avenir.
Oui.
Quels sont les axes de développement que vous priorisez? Renforcer sur le métier, vous diversifier, quels sont vos choix stratégiques?
Alors...
Personne n'écoute. Hein, les concurrents n'écoutent pas.
D'accord. En fait, on a une chance inouïe. C'est d'être sur un marché qui est un marché sans limite. Les personnes, les équipes, les entreprises ont toujours besoin de plus de compétences. Donc on a un boulevard finalement en termes de marché. Donc ça c'est une caractéristique intéressante sur le plan de la vie d'une entreprise. Deuxièmement, nos clients deviennent de plus en plus des clients internationaux. Il y a peu aujourd'hui d'entreprises qui n'exportent pas ou qui n'ont pas des bureaux, qui n'ont pas des partenaires ailleurs. Donc deuxième tendance forte, c'est notre capacité à renforcer notre dimension internationale, d'où les chiffres que j'évoquais tout à l'heure. Alors, d'une façon peut-être plus concrète, plus opérationnelle, on souhaite bien sûr renforcer notre point fort qui est la formation, ça c'est clair. Deuxièmement, on souhaite renforcer nos positions sur des pays à fort enjeu. J'évoquais en tout début là, le fait que l'Allemagne, l'Angleterre, c'était des pays très importants. Donc là, notre objectif, c'est de nous renforcer certainement par des croissances externes, donc par des acquisitions.
Oui.
Et la troisième logique, c'est de pour pouvoir accompagner nos partenaires, enfin nos clients dans le monde entier, c'est vraiment étoffer notre réseau de partenaires. Donc être capable d'avoir en Corée, en Inde...
Donc c'est le réseau, quoi, en
quelque sorte. C'est le réseau, c'est le réseau.
Un maillage de réseau.
Et puis le dernier point, c'est un point aussi qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la montée en puissance des nouvelles technologies, donc la partie e-learning. Donc
oui.
nous croyons vraiment beaucoup au e-learning, parce que c'est une façon, c'est un peu comme la formation par la radio, c'est une façon de diffuser à distance rapidement et à tout le monde des éléments de compétences. Donc on a commencé, on va continuer à investir beaucoup dans ce domaine-là pour vraiment prendre une position de leadership mondiale cette fois-ci.
Alors c'est une conviction, parce que je relis ce que vous disiez par ailleurs, le meilleur de la formation présentielle, maintenant je sais ce que c'est que la formation présentielle, vous l'avez dit tout à l'heure, allié à l'excellence du e-learning, avec l'ambition d'optimiser la rentabilité de l'entreprise cliente, développer ses talents et favoriser la croissance.
Exactement.
Et donc, c'est cette affirmation de conviction et de passion que nous allons arrêter cet entretien en vous disant que l'objectif que vous citez par ailleurs, qui est de faire réussir vos clients, me paraît extrêmement noble. Merci à vous deux, merci Président, merci Madame.
Merci.
Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir une prochaine fois sur notre antenne.
Volontiers.
À très bientôt, merci à vous.
Thank you.